Bonjour à tous et à toutes. Il est 18h et tout de suite ces premières pages sur Radio Campus Paris 93.9 FM.
Non, c'est pas vrai!
Qu'est-ce que tu dis?
Maman ne m'a pas puni, elle n'a pas bien écrit.
Qui t'a dit qu'on ne t'avait puni?
C'est écrit là.
Voyons, voyons, mais... Tu sais lire?
Oui.
Première page, c'est la chronique littéraire pour lecteurs décomplexés. Un vendredi sur deux, à 18h, sur Radio Campus Paris. Dans ce 13e épisode, le polar est à l'honneur avec Millennium de Stieg Larsson. Quel lourd secret se cache derrière la mystérieuse disparition de Harriet Wanger? 30 ans après les faits, Michael et Lisbeth sont bien décidés à découvrir la vérité, y compris la plus sordide. Je m'appelle Louisa Georges et vous écoutez le 13e épisode de Première Page, un vendredi sur deux, à 18h sur Radio Campus Paris, 93.9 FM.
Je ne veux plus que Marcel rentre dans une classe, ni même ouvre un livre, avant l'âge de 6 ans. Laisse-le encore un peu faire l'enfant.
En ce moment, j'ai le cœur gros. Ma condition de femme me pèse. Ce n'est pas nouveau, me direz-vous. Depuis les premiers sifflements intempestifs, j'ai su que je n'étais pas du bon côté de la barrière. Mais depuis ce début d'année, c'est différent. Est-ce les chiffres alarmants du baromètre sexisme 2023, publié en janvier, le blasement annuel du 8 mars, le succès de la nuit du 12 au César, ou encore le féminicide récent d'Asia, retrouvée morte au but de Chaumont, fait effroyable, devenu tristement ordinaire. Rien de nouveau donc, et pourtant, je le ressens plus fort. Des pensées qui me hantent, seules dans la rame ou à pied en retour de soirée, essoufflées, contraintes d'accélérer, inquiètes par un regard devenu trop insistant. Importunée par une drague lourde quand ma seule requête est de payer ma place de ciné, en reconquête pour occuper pleinement cette place de bus et non, je ne laisserai pas mes jambes croisées. Mais également agaçante, d'avoir ri ou parlé un peu trop fort. Dérangeante, d'avoir posé la question qui fâche, la remarque qui pique, qui contrarie. C'est épuisant cette marche quotidienne pour occuper cette ville, gratter régulièrement du terrain. Cette quête d'une vie en sécurité pour, qui sait, atteindre un jour la liberté, l'égalité. C'est viscéral, être une femme est un poids, et cette violence ne cesse de me hanter. C'est sans doute pour ça qu'il m'a fallu tergiverser un certain temps avant d'entamer le livre d'aujourd'hui. Un monument du genre policier particulièrement hard qui m'a toisé un certain temps sur ma table de chevet. J'ai pris l'habitude de prendre certaines pincettes avant de commencer un polar, et plus particulièrement lorsqu'il traite de violences faites aux femmes. Car oui, c'est bien de cela qu'il est question aujourd'hui. L'ouvrage fait en réalité directement écho à cette fameuse violence. Ce malaise qui m'oppresse, d'où mes premières réticences à replonger. À raison de 700 pages, je me suis arrêtée au premier tome. Mais le titre de cet opus reste sûrement le plus évocateur. L'épisode du jour est consacré à Millennium, les hommes qui n'aimaient pas les femmes, de Stieg Larsson. Lorsque j'entends parler de Millennium pour la première fois, je suis encore jeune. Il faisait partie de ces livres de parents dont vous avez longtemps vu la couverture traîner sur un rebord de fauteuil ou dans les mains de l'un d'eux. Dans mon cas, il s'agissait de la version Actes Sud, celle que je me suis d'ailleurs procurée pour découvrir l'ouvrage. On y voit le visage d'une petite fille, clairement inspirée de Mercredi de la famille Adams, dont le cou est orné d'un collier fait de plusieurs têtes de Barbie rétro. Enfant, sans connaître le contenu, on devine assez vite que l'ouvrage nous est interdit. Si Millennium compte 6 tomes, je me rappelle particulièrement du premier, marqué par l'expression macabre de cette petite fille. Point de lumière sur le fond noir cerclé de rouge, typique de la collection Actes Noirs. J'ai également connu Millennium pour ses films. Adapté dans un premier temps par le réalisateur danois Niels Harden Oplev, le premier opus connaîtra également une adaptation américaine réalisée par David Fincher, célèbre notamment pour ses thrillers glauques et particulièrement dérangeants. Pour tout vous dire, si j'ai pu lire le livre, je ne suis pas encore parvenue à voir le film, tant l'horreur de certaines scènes est inscrite dans la culture populaire. Millennium, c'est surtout une référence du genre littéraire policier. Publié en Suède entre 2005 et 2007, on doit l'initiale trilogie à l'auteur suédois Stieg Larsson. Ce dernier mourra d'une crise cardiaque avant la parution de ses ouvrages, à l'âge de 50 ans. L'œuvre, devenue posthume, rencontre un succès mondial et connaît 35 traductions. En 2015, on comptabilise 75 millions d'exemplaires vendus dans le monde, dont 4 millions en France. C'est alors le plus gros succès des éditions Actes Sud. En 2015, l'auteur David Lagercrantz s'engage dans l'écriture d'une suite et 3 tomes paraissent entre les années 2017 et 2019. Bande dessinée, radio, cinéma, la saga touche à tout et rencontre à chaque fois son public. Mais comment expliquer un tel succès ? Comme nous l'explique Christine Siméon dans son article paru en 2019 pour France Inter, avant d'écrire ses romans, notre auteur était journaliste. S'inspirant d'un certain nombre de ses enquêtes passées pour créer ses faits divers, le récit s'inscrit dans une réalité particulièrement violente, mais authentique. Stieg Larsson, c'est surtout un engagement politique fort, notamment contre le mouvement néo-nazi en Suède, engagement qui imprégnera ses œuvres et son récit. Il s'attaque ici avec brio aux rouages, acteurs et conséquences du cercle infernal de la violence. Mais alors Millennium, ça parle de quoi ? Contrairement à un polar classique, on ne suit pas un policier, mais un journaliste, Mikael Blomqvist. Père divorcé, notre héros est un homme solitaire dont les rapports sociaux semblent se limiter aux relations privilégiées qu'il entretient avec différentes femmes. Un homme bienveillant, intéressant, curieux, un électron libre, peu enclin à une vie stable et routinière. L'intérêt de notre personnage est monopolisé par le travail d'investigation qu'il mène pour une revue économique dont il est cofondateur. Le récit s'ouvre d'ailleurs sur le procès de ce dernier, accusé dans une affaire de diffamation suite à une enquête parue dans ce même journal, Millennium. Connu pour jeter des pavés dans la mare, notre journaliste semble avoir flairé un trop gros poisson. Dans cette affaire, il s'attaque à Hans-Erik Wennerström, grand industriel suédois. Si Mikael était connu pour son surnom Super Blomqvist, en souvenir d'une vieille enquête, ce jugement est une redescente particulièrement brutale. Il démissionne, avec la complicité de sa collaboratrice, amie et amante, Erika Berger, et s'isole un temps avant de purger sa courte peine. Sa vie prend alors un tournant. Il est contacté assez vite par une figure historique de l'industrie suédoise, Henrik Wenger. Officiellement missionné pour écrire les mémoires du vieil homme et de sa famille dans laquelle les conflits vont bon train, une fois sur place, les attentes d'Henrik semblent tout autres. En effet, cela fait 36 ans que la nièce du vieil homme a mystérieusement disparu. Le 22 septembre 1966, sur l'île fictive d'Edebjörn, peuplé essentiellement par les membres du clan Wenger, un accident de la route trouble la tranquillité du village sur le pont qui relie les insulaires au continent. Harriet, alors âgée de 16 ans, se volatilise le jour même. Une disparition alors couverte par le chaos provoqué par les deux véhicules. Après avoir remué ciel et terre, Henrik se résigne. C'est une évidence. Sa nièce, qu'il aimait comme sa fille, semble avoir été assassinée. Mais le cauchemar ne s'arrête pas là. Avant la disparition d'Ariette, le vieil homme recevait traditionnellement des mains de cette dernière une fleur séchée encadrée pour son anniversaire. Si l'année 1966 rompt cette chaîne, le 1er novembre 1967, Henrik reçoit de nouveau pour sa célébration le traditionnel cadeau devenu particulièrement macabre. L'expéditeur, toujours anonyme, semble bien décidé à tourmenter le vieil homme qui ne cesse de recevoir ce présent au cours des 36 années qui le séparent du drame. Désespéré, Henrik a besoin d'un regard neuf, d'une nouvelle enquête. Connu pour ses investigations, mis au ban de la société par un procès retentissant, Michael semble être le profil idéal. L'ancien homme d'affaires mise tous ses espoirs sur ce journaliste solitaire pour enfin découvrir la vérité. D'abord réfractaire, notre héros signe finalement un contrat juteux reliant les deux hommes. Il s'engage alors à s'installer sur Edebjörn pour enquêter au plus près de l'affaire. Si Michael pense tout d'abord se lancer dans une mission dont la résolution relèverait du miracle, le vent tourne pour notre journaliste, et ce notamment grâce à l'arrivée de notre deuxième personnage principal, Lisbeth Salander. Une hackeuse dont les compétences exceptionnelles semblent pouvoir enfin peser sur la balance. Considérée comme marginale, notre héroïne est une femme brillante. Elle doit à ses nombreuses années de boxe une aptitude au combat et à un mental de battante. D'une violence verbale et physique certaine, Salander sait se défendre et tire sa force d'une vie semée d'embûches. Après de nombreux passages en hôpital psychiatrique, Lisbeth est placée sous tutelle. Introvertie, associable, avec pour seul parent une mère hospitalisée, le cercle social de notre héroïne se limite à ses conquêtes d'un soir et à ses collègues à cœur. Particulièrement hostile aux hommes, cela ne l'empêchera pas de créer une belle relation avec notre héros. Tous deux plongés dans ce drame familial, nos enquêteurs semblent coincés dans la cage au lion, au risque d'y laisser quelques plumes. Si l'ouvrage est bien moins hard que ce à quoi je m'attendais, il n'en est pas moins réservé à un public averti. Certaines descriptions sont crues et d'une extrême violence, m'imposant le signalement d'un certain nombre de trigger warnings, notamment pour torture, meurtre, viol, inceste. Alors oui, sur le papier, cela peut être rédhibitoire. Mais ayant moi-même une certaine sensibilité à ces questions, j'ai pu lire cet ouvrage sans problème. Je vous conseille malgré tout de bien choisir votre timing. Privilégiez un bon mood et réservez des moments et des œuvres plus légères pour temporiser certains passages, car c'est indéniable, ce récit ne laisse pas indemne. Mais alors, pourquoi ai-je tant aimé ce livre ? Depuis L'île des chasseurs d'oiseaux de Peter May, Millennium n'est que mon deuxième polar. Je dois avouer que je suis toujours réticente à ce genre de lecture. Tout comme j'évite les reportages True Crime et autres cold cases, les enquêtes policières ont ça de réel qu'elles ont surtout tendance à me faire bader. Mais quelle émotion ! Lire ce livre m'a complètement réconciliée avec le genre tant les ressentis de cette lecture sont uniques. La colère, la peur, l'excitation, le dégoût, le suspense, ce fameux moment où l'on ne peut plus décrocher, je n'avais jamais ressenti ça à ce point pour une lecture. Si la première partie de l'ouvrage est assez calme, voire comporte quelques longueurs, le récit finit par basculer, rendant l'engouement collectif pour cette trilogie plus limpide. L'auteur maîtrise parfaitement le déroulé de l'enquête, rappelant très régulièrement les dates, les faits, les noms de personnages, nous permettant de ne jamais perdre le fil. Les scènes sont décrites dans les moindres détails, révélant un réel investissement dans le travail d'écriture. Larson pousse l'investigation à son maximum, nous impliquant au plus près de l'enquête. Néonazisme, dérives sectaires, violences sexistes et sexuelles, l'auteur parvient à nous tenir en haleine avec des sujets lourds et on ne sait jusqu'où l'horreur ira, ni si elle prendra fin un jour. L'enquête est réaliste et l'écrivain met un point d'honneur à ce que nos deux enquêteurs gardent les pieds sur terre et prennent conscience des risques qu'ils encourent et des conséquences de leurs actes. En bref, nous suivons deux êtres humains traversés par des émotions, des êtres imparfaits auxquels il est possible de s'identifier. Ce qui m'amène au deuxième point fort de l'œuvre, ces deux personnages principaux, Michael et Lisbeth. Loin des clichés, de la bimbo et du ripou misogyne fréquents dans ce genre d'ouvrage, notre auteur a plutôt tendance à inverser en partie les cadres genrés, livrant un duo particulièrement intéressant. Michael, tout d'abord, est un homme sympathique. Tolérant, à l'écoute, communicatif, l'auteur lui attribue un rapport aux femmes respectueux et relativement déconstruit. C'est finalement dans son rôle de père que notre journaliste n'est pas à la hauteur. Mais la problématique est loin d'être banalisée pour autant. Notre personnage traverse des moments de doute, de vulnérabilité intense, loin d'un James Bond froid et arrogant. On aimerait voir certains commissaires véreux, emblématiques du genre littéraire, en prendre de la graine. Il est d'ailleurs comique de voir Daniel Craig incarner notre héros dans l'adaptation de David Fincher, en parallèle de son rôle emblématique d'agent secret dans Skyfall. Lisbeth, quant à elle, occupe une place centrale dans l'œuvre et incarne d'après moi la clé de l'originalité et du succès de cet ouvrage. Salander, c'est l'anti-bimbo. Loin des James Bond Girls, notre héroïne est tatouée, percée. Son style gothique, son apparence fluette, androgyne et sa bisexualité assumée cassent les clichés. Une certaine modernité, que l'on doit notamment à une écriture assez peu polluée par le male gaze de notre auteur. Impulsive, agressive, à la limite de l'anti-héroïne, elle est loin des stéréotypes du personnage féminin classique. Finalement, ce qui relie nos deux héros, c'est une vie instable, un profond mépris pour l'autorité et un désir viscéral de rendre justice. Réellement badass, Lisbeth, c'est surtout une femme courageuse, aux capacités intellectuelles exceptionnelles. Mais si j'ai particulièrement aimé ce personnage, c'est surtout pour son féminisme et la violence qui se dégage de ses convictions. Si elle subit également de plein fouet le patriarcat, notre héroïne met tout en place pour se défendre et surtout pour contre-attaquer. Si Salanders bascule dans les extrêmes et mène des actions condamnables que je ne cautionne pas dans les faits, ses choix, son caractère, son engagement ont un réel pouvoir cathartique. Rappelant, dans une moindre mesure, les propos d'Irénée dans son essai « La terreur féministe ». Face à la violence systémique et impunie, exiger des femmes qu'elles mènent une lutte féministe pacifiste est plus qu'indécent. C'était un extrait de Goodbye, de Apparate et Soap and Skin. Vous écoutez Première Page, une chronique littéraire pour lecteurs décomplexés sur Radio Campus Paris, 93.9 FM. L'épisode du jour est dédié à Millennium, les hommes qui n'aimaient pas les femmes, de Stieg Larsson. Derrière la fiction, Millennium cache un discours plus engagé. Dénonçant vigoureusement un climat de violence, le récit s'inscrit dans une réalité plus dure. L'ouvrage compte 4 parties, chacune introduite par une statistique concernant les violences faites aux femmes en Suède. On peut y lire notamment « 46% des femmes ont été exposées à la violence d'un homme » ou encore « 92% des femmes ayant subi des violences sexuelles à l'occasion d'une agression n'ont pas porté plainte ». Des statistiques édifiantes, certes datées de la sortie de l'ouvrage, mais qui donnent une idée claire du cycle infernal de la reproduction des violences. Cette question est centrale dans l'ouvrage. Bien loin des faits divers isolés, l'auteur met un point d'honneur à inscrire le récit dans un système plus large, rejoignant des courants féministes plus récents. Si le terme de féminicide a son importance, c'est pour ce qu'il signe de la fin de l'innocence. Un acte imbriqué dans une répétition, une série, répondant à un système bien rodé. Car le féminicide, c'est aussi simple que ça. Meurtre d'une femme ou d'une jeune fille en raison de son appartenance au sexe féminin. Triste définition faisant directement écho au titre de notre ouvrage. Théoriser ce terme, c'est rappeler qu'il n'est plus question de victimes minoritaires, ayant eu la malchance de croiser le mauvais mec au mauvais endroit. La question du viol est aussi largement abordée dans ce tome, avec des scènes particulièrement dures, détruisant notamment le mythe du viol par un inconnu dans une rue obscure, rappelant que dans la majorité des cas, la victime connaît son agresseur. L'auteur s'attaque d'ailleurs également à l'inceste, dénonçant les violences sexuelles dans leur globalité. Vous l'aurez compris, Millennium ce n'est pas juste un excellent roman policier. L'histoire est glaçante, mais politique. L'horreur de certaines descriptions n'est pas là pour faire du phénoménal, du gore gratuit, mais bien pour dénoncer. Elle appuie un propos et n'est pas là uniquement pour choquer. Démarche que l'on a reprochée longtemps à certains journalistes présentant le féminicide comme un acte affreux, mais isolé, marginal. N'hésitant pas à fournir les détails les plus sordides, tout en niant une quelconque envergure politique. Mais n'est-ce pas finalement une façon de se rassurer ? Plus c'est gros, moins ça risque de m'arriver, ou d'arriver à mes proches. On encaisse la nouvelle, comme l'annonce d'une catastrophe naturelle à l'autre bout du continent. On se met à distance. L'ouvrage soulève avec brio la question des violences systémiques. Que reste-t-il du monstre dans une société de toute évidence viciée ? Comme dirait Lisbeth dans cette réplique qui reste à mon goût la plus grosse claque de l'ouvrage, « Je crois que tu te trompes, dit-elle. » Ce n'est pas un tueur en série malade qui a trop lu la Bible. C'est simplement un fumier ordinaire qui hait les femmes. En réalité, si dans l'ouvrage le traitement des violences a un impact fort, c'est pour l'allusion évidente et insupportable à nos problématiques contemporaines. Au moment où j'écris cet épisode, on dénombre en France pas moins de 27 féminicides depuis le début de l'année. Cet épisode est pour ces femmes et pour toutes celles qui m'entourent et participent directement ou indirectement à rendre cette vie plus douce, plus supportable. Pour aller plus loin, je recommande La Terreur féministe, petit éloge du féminisme extrémiste, essai d'Irénée Hermoso Poça, paru en 2021. Nos pères, nos frères, nos amis, Dans la tête des hommes violents, enquête de Mathieu Palin, paru en 2023, et La nuit du 12, film réalisé par Dominique Moll, sorti au cinéma en 2022. C'était le 13e épisode de Première Page, rendez-vous dans 15 jours, même heure, pour une prochaine lecture sur Radio Campus Paris, 93.9 FM.